Pour moi, c'est toujours avec des souvenirs tels que j'ai pu les choses que j'ai pu vivre avec vous. Et puis ma relation avec Christiane et Antoine Nosek, une relation qui date d'une trentaine d'années maintenant et qui fait que je suis toujours très heureux de les retrouver et de vous retrouver donc. Très heureux aussi parce que on a un temps de louange, un temps d'adoration. Est-ce que nous avons loué? Est-ce que nous avons adoré? Je disais hier en formation, le mot n'est pas toujours la chose. Ce n'est pas parce que nous disons que nous louons que nous avons loué. Ce n'est pas parce que nous disons que nous adorons. Le mot n'est pas suffisant. Alors on m'a demandé déjà de me présenter. Que vous dire? Basiquement, allez, je suis marié depuis... Ça, c'est pour plaindre ma femme. Je suis marié depuis 55 ans. Alors donc, avec une femme, donc bien entendu, et avec la même femme depuis 55 ans. Et puis, ça fait à peu près une cinquantaine d'années que je suis aussi pasteur. Et ces dernières années, je suis plus dans la responsabilité d'une église, mais j'accompagne les églises, j'accompagne les ministères. Je voyage aussi beaucoup. Il y a peu de temps, là, je suis rentré de Guinée-Conakry. Et voilà un petit peu mes occupations principales. Mais justement, en parlant de la Guinée-Conakry, je rencontrais un étudiant qui est venu me voir, un jeune pasteur, et qui me disait, mais alors, vous savez, quand c'est ça, c'est qu'on vient voir, le vieux, vous voyez ? En Afrique, on vient voir le vieux en disant, il a un petit peu d'expérience. Et il me dit, mais pour vous, si on devait étudier quelque chose en premier, qui soit essentiel, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on étudie ? Alors, c'était une bonne question. Et je dis, mais tout compte fait, au bout de toutes ces années, je te dirais une chose. Il y a une chose qui, pour moi, est essentielle. 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 C'est de chercher de plus en plus cette relation, cette intimité avec Dieu. C'est ça qui est essentiel. C'est pas le savoir. C'est pas le savoir. Jésus n'a pas fait des discours de théologie. J'ai été directeur d'un institut biblique pour la formation au ministère. Mais je crois que je me suis même trompé souvent parce que j'ai déversé un savoir dans le cœur ou dans la tête plutôt des étudiants qui étaient là. Bien entendu, il faut avoir les bases, bien entendu. Mais ce qui est essentiel, c'est quelle relation nous avons avec Dieu. Est-ce que nous vivons ces choses d'une façon intense? Est-ce que pour nous, c'est d'abord cette communion avec Dieu qui est primordiale? Je ne sais pas si vous avez un verset que vous aimez, s'il y a un verset qui vous trotte dans la tête régulièrement. Moi, tous les jours, il y a un verset qui me trotte dans la tête. Tous les jours. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça paraît fou, cette histoire. Mais je crois que notre relation avec Dieu, c'est complètement fou. Alors, pardonnez-moi, mais ce matin, je n'ai pas spécialement envie de vous faire un enseignement sur le savoir. D'ailleurs, ça me gêne maintenant, ça me pose des problèmes, ça, parce qu'on déverse un enseignement. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est pas le tout de savoir, c'est de le vivre. Ce n'est pas le tout de savoir, parce qu'on sait beaucoup de choses, vous ne voyez pas, dans nos assemblées. Vous vous rendez compte, tous les dimanches, pour certains, vous venez tous les dimanches matin, depuis des années, vous venez écoutez un message et vous savez, vous apprenez, bien entendu, et c'est bien, et c'est bien. Mais la question, c'est, on en fait quoi? D'une façon pratique, ça se passe comment? On sait, bien entendu, on connaît ce verset. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais dans la réalité de chaque jour, on le vit comment? Le soir, des fois, quand, avant de m'endormir, j'ai presque hâte que ce soit le lendemain, me réveiller pour vivre encore cette communion avec lui, avec mon Père. Je ne suis pas là pour déverser un savoir, je suis plutôt là pour vous partager peut-être ce que je vis. Ce que je vis, alors c'est évident que ce n'est pas moi qui suis important et je ne suis pas important dans cette affaire. J'ai pas à vous démontrer quoi que ce soit, j'ai pas. Non. Je voudrais tellement vous parler de cette relation que nous sommes appelés à avoir, à vivre réellement. Attendez, si on est en train de bien réfléchir, celui qui est infiniment infini vient vivre en moi. Ça veut dire que déjà, il a fallu que je me débarrasse un tout petit peu de mon ego, de mon savoir et tout le reste, et puis le laisser vivre en moi. Désirer qu'il vive vraiment en moi. C'est-à-dire que celui qui est en moi est tellement plus grand que moi. Que le... Vous voyez, là, on est déjà dans quelque chose d'un peu... C'est un peu étrange, hein. C'est un peu étrange. Et pourtant, c'est ça. C'est ça. C'est cette présence en nous qui nous fait vibrer. C'est le sens de notre vie. On n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans le concept. On est dans la réalité de sa présence. On vit cette présence. Je sais que plusieurs le vivent, mais je voudrais vous encourager à le vivre encore peut-être plus intensément. Je n'ai rien à vous apprendre, certainement. Mais l'essentiel, est-ce que c'est pas ça? Et c'est pour ça que quand on découvre que le royaume de Dieu, c'est la paix et c'est la joie. Ça, on connaît le verset. Et en même temps, quand je vous en parle, j'ai le cœur qui bat plus vite là. La joie, c'est ça le royaume de Dieu, hein. C'est la joie. Or, très souvent, on a toutes sortes de situations qui sont un peu compliquées, on passe par des moments difficiles, par des moments même de douleur, de souffrance, par toutes sortes de situations qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Et puis tout d'un coup, sans que vous l'ayez préparé. Parce que quand il s'agit là de la joie, il s'agit bien entendu pas de la joie que nous avons, nous, naturellement, quand on est en train d'écouter un tel ou autre, ou en train de faire telle ou telle chose. Tiens, j'aime faire du ski, alors je suis heureux. Non, c'est pas « je suis heureux ». C'est la joie de Dieu. Cette joie qui vient, qui n'est pas naturelle, qui est différente de la joie que nous connaissons naturellement et qui nous saisit aux entrailles. Et on est comme saisi, secoué par cette joie profonde, cette joie qui vient de l'esprit, cette joie qui déborde. Et quel que soit notre âge, quel que soit notre travail, notre activité, quel que soit nos soucis, nos problèmes, il y a une joie qui nous saisit. Ah, ouf! Il y a des moments, je ne sais pas si vous avez pu dire à Dieu, attends, c'est trop là. Vous avez pu dire à Dieu, c'est trop? Ça vous arrive? Je voudrais vous encourager à demander à Dieu de vous visiter par sa joie. Pas la joie naturelle. J'ai eu beaucoup de joie à retrouver certains ce matin, et j'ai eu beaucoup de joie, mais c'était une joie naturelle, une joie humaine. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas une joie humaine. Le royaume de Dieu, c'est sa joie qui va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, qui nous saisit. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, quand elle nous saisit, on a l'impression que c'est tellement fort, c'est presque violent. On dit à ce moment-là, Seigneur, attends, trop là, parce que là trop, c'est trop, là je vais pas tenir, là je vais éclater, là, attends, Seigneur. Attends. Ça nous paraît un peu fou, mais c'est ça. Là, vous vous rendez compte, la paix, c'est pas simplement cette paix que nous pouvons connaître parce que nous sommes des personnes qui sont réfléchies, qui considèrent les choses, qui ont un peu de recul. Il y en a qui prennent un peu de recul, là. Vous savez ce que c'est que de prendre du recul, hein? Moi, je reste... Vous savez, moi, je suis cool, moi. Je suis dans la paix. Non, c'est pas de ça. C'est pas ça. La paix de Dieu. C'est parce que, on s'en rappelle, hein, c'est lui qui vit en nous. C'est lui qui vit en nous. Et tous les matins, tu peux te lever en disant, il vit en moi. La question, c'est de lui laisser la place. La question, c'est de devenir dépendant de lui. Et c'est une vie extraordinaire. Nous sommes, je voudrais vraiment vous encourager, vous êtes appelés à vivre une vie extraordinaire. Vous êtes appelés à vivre une vie qui dépasse la raison. Vous êtes appelés à vivre cette communion avec Dieu qui fait que même si vous vous sentiez un petit peu faible, incapable, Dieu va vous rendre capable et fort. Parce qu'il met sa paix, il met sa joie dans vos vies. Et quand vous vivez avec la paix et la joie de Dieu, mais mes amis, qu'est-ce qui peut vous détruire? Qu'est-ce qui peut vous détruire? Ah, Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Combien c'est? Vous voyez, on n'est plus là dans le savoir. On est là dans la vie. J'aime ce terme. Il nous a donné la vie. Et le texte dit la vie en abondance. C'est-à-dire la vie selon Dieu. La vie qui va, là encore, nous dépasser. Ah. Là, c'est vrai qu'on aborde une question un tout petit peu... Ah. Bon. Attendez. Nous sommes réconciliés avec Dieu par quoi ? Oui, soyez un petit peu plus précis quand même, jeune homme. On se connaît, il n'y a pas de souci. Hein. Nous sommes réconciliés par sa mort. Mais nous ne sommes pas sauvés par sa mort. Nous sommes sauvés par sa vie. Romains, chapitre 5, verset 10. Nous sommes sauvés par sa vie. Mais mes amis, là, attendez. Alors, d'abord, ça remet les choses en place, parce que très souvent, j'entends des choses un petit peu, j'entends le tout et son contraire. Non, nous ne sommes pas sauvés par sa mort. Par sa mort, nous sommes réconciliés. Parce que si ça s'arrêtait là, on n'irait pas plus loin. Si, si, Si Jésus était seulement mort, on s'arrête pas, on va pas plus loin, puisqu'il est mort. La chose essentielle, c'est qu'il est ressuscité. C'est là ce qui va bousculer tous les disciples. Et à partir de là, ils vont pouvoir annoncer l'évangile parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il est la vie. Parce qu'il a vaincu la mort. Justement, il a vaincu la mort. Et il nous donne, lui, Christ en nous, qui est la vie, nous donne la vraie vie, la vie avec toute sa puissance, toute sa force, toute son autorité, toute son œuvre infinie. C'est la vie. Et tous les jours, j'ai le sentiment profond qu'il me sauve. Parce qu'il me donne sa vie. Il me donne sa vie. Jésus dira qu'il a des brebis, il est le berger, et il a donné sa vie pour ses brebis. Et très souvent, quand on pense à ça, on dit ben, il a donné sa vie, il est mort pour... Non, je me suis fait la réflexion, je ne sais pas si vous vous êtes fait la réflexion, mais moi je me suis fait la réflexion, tout le monde sait. Moi je suis un peu dans les Cévennes, vous voyez, et là, il y a pas mal de... Il y a les transhumances, il y a les moutons, il y a les chèvres et autres. Et j'avoue que je n'ai jamais vu un berger mourir pour ses moutons. Par contre, un berger, quand il part en transhumance, il donne sa vie. Il passe sa vie à garder ses moutons, à faire attention qu'ils ne soient pas mangés par un loup ou autre chose, qu'ils ne tombent pas dans une crevasse ou autre, mais il donne sa vie, il vit pour ça, il vit pour ses moutons. Et quand on lit parfois, il est le berger qui a donné sa vie, je ne sais pas pourquoi on fonctionne en disant, ben non, si Jésus nous donne cet exemple-là, moi je n'ai jamais vu de berger qui meurt pour ses moutons. Il nous donne sa vie. Vous vous rendez compte ? Jésus te donne sa vie pour que tu vives dans l'abondance, dans cette vie abondante, cette vie qui nous transcende, cette vie qui fait que notre vie est totalement différente. Notre vie, elle est totalement différente, pas parce que nous venons le dimanche matin dans un lieu de culte, mais parce que... Remplis de sa présence, nous vivons. Remplis de sa présence, nous vivons. Non. J'ai dit que je vous partageais plus peut-être mon cœur qu'autre chose. Ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près 50 ans que j'ai servi Dieu de tout mon cœur, avec ce que je connaissais, ce que je savais. Je n'ai pas toujours été bon. Il y a des choses où j'étais... Ouais, c'était bien, c'était bien, j'étais bon. Ah oui, j'ai été bon. Mais enfin, il y a des choses où je n'ai pas été bon du tout. Est-ce que j'avais tout compris ? Est-ce que j'ai tout compris ? J'ai le sentiment aujourd'hui de ne pas savoir. Plus je marche avec Dieu, plus j'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment que Dieu est tellement infiniment infini que nous connaissons en partie. Et que la partie que nous connaissons, c'est tellement... C'est comme une cuillère à café dans l'océan. C'est rien. J'ai encore tout à découvrir. On a encore tout à découvrir. On a encore tout à découvrir dans la vie que nous vivons avec Dieu. Si nous vivons toujours la même chose depuis 50 ans, il y a un souci. Nous sommes toujours en train de découvrir quelque chose avec Dieu. Ouais. Alors, ça fait depuis à peu près, pour tout vous dire, ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai l'impression que je suis en train de vivre autre chose dans ma relation avec Dieu. Je vis des choses que j'avais jamais vécues. Je vis non seulement ça, mais j'ai presque le sentiment que mon, mon, mon service, mon ministère, entre guillemets, je dis ministère, mais je préfère le mot service, on est là pour servir, mon service est différent. Et alors, ça a changé les choses parce que, je ne sais pas comment vous faites, mais très souvent, quand on parle de, vous savez, quand on parle de notre vie avec Dieu, on pense à la prière. Vous pensez un peu à ça aussi, hein? Quand on parle de la vie avec Dieu, on pense à la prière. Vous participez là un petit peu, hein? Vous me suivez, vous m'aidez, vous ne me laissez pas tout seul là quand même. Hein? Je ne veux pas vivre un grand moment de solitude ce matin. Non. Donc, mais la prière, très souvent, c'est peut-être simplement tout ce que nous demandons à Dieu. On prie, ah oui, on a demandé, il faut qu'on demande ça, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça. Mais là, on est, c'est pas la prière, là, on est dans un monologue. La prière avec Dieu, c'est un dialogue. C'est ce temps où non seulement nous pouvons parler à Dieu, mais c'est surtout Dieu qui veut nous parler. Parce qu'il a beaucoup plus de choses à nous dire que nous avons à lui dire. Parce qu'il a certainement des choses beaucoup plus intéressantes à nous dire que nous avons, nous, à dire. Parce que il y a là toute la manifestation de sa plénitude. C'est le mot qui est employé dans le texte. Toute la plénitude de Dieu. Wow, j'ai tellement à apprendre. Tu as encore tellement à apprendre. On a tellement à apprendre. Et alors, Dieu m'a complètement bouleversé dans ce temps de relation parce qu'aujourd'hui, je passe plus de temps à écouter qu'à demander. On peut passer plus de temps à écouter qu'à demander. Alors, pour faire court, parce que je sais que j'ai quand même pas non plus 3 heures à partager, parce que là, vous voyez, comme je suis parti, c'est évident que je suis toutes les notes que j'avais mises sur le papier. Il y a quelque temps, enfin ça date déjà depuis un moment, quand je prends ce temps, alors je vais être vrai avec vous, certains diront il est fou ce gars, il est fou ce type-là, mais très souvent, quand je prie, peut-être en langue ou autrement, sans m'en rendre compte, je prononce des mots que je ne connais pas. Ou je prononce des phrases, ça ne me dit rien du tout. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et ça me rappelle tout simplement peut-être un texte qu'on lit dans Jérémie, où il dit que Dieu a mis sa parole dans la bouche de Jérémie. Et je le vis peut-être un peu comme ça, alors je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais j'ai vécu toutes ces dernières années des choses surprenantes, étonnantes, où Dieu me donne des noms de personnes que je ne connais pas, ou pour lesquelles je dois prier. Et alors, il y a quelque temps, allez, je le partage avec vous, je prends des risques. Je ne sais pas si vous avez un asile psychiatrique pas loin. Si vous jugez que c'est folie, mais moi je crois que ma vie avec Dieu, elle est folie. Elle est folie. On n'est pas dans les choses banales. C'est pas banal de vivre avec Dieu. Attendez, Christ en nous, c'est pas banal ça. C'est pas banal. Oh. J'étais en train de prier et je me mets à dire. Restez assis, accrochez-vous aux chaises. La procuration de l'empereur. Bien évidemment, spontanément, pour vous, ça veut dire quelque chose. Moi, j'avoue que ça ne voulait rien dire pour moi. Rien. Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et alors, je vais sur Internet et je tape la procuration de l'empereur. Et La première page est remplie de la procuration de l'empereur concernant Napoléon. Alors, je ne suis pas un historien, moi, ce n'est pas, trop mon truc, je ne suis pas bon là. Procuration de l'empereur, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, je découvre, je ne sais pas, certains le savent, parce que vous êtes certainement beaucoup plus cultivés que je ne le suis, je découvre une chose complètement folle. Certains savent de quoi il s'agit, là? Non? Napoléon, en 1810, doit se marier avec Marie-Louise d'Autriche. Il faut savoir que 5 ans plus tôt, il était en guerre avec l'Autriche, Napoléon. 5 ans plus tôt, il était en guerre avec l'Autriche. 5 ans plus tard, il a décidé de se marier avec Marie-Louise d'Autriche. Seulement, le jour du mariage, il a plein de choses à faire, quand même, qui sont importantes. Il a des guerres de tous les côtés, il a plein de choses à régler, et il ne peut pas aller en Autriche. Pas de problème. Il appelle un de ses sbires, Berthier, et lui dit, écoute mon gars, je vais te signer une procuration et tu vas en Autriche te marier pour moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je découvre cette histoire. C'est pas possible. Enfin, on peut pas aller se marier. En plus, l'empereur, vous voyez, Berthier, il était... C'était à l'époque, il était général ou maréchal, je crois. Bon, c'était un homme de confiance de Napoléon, mais alors là, je suis devenu très, très féru là-dessus. Hein. Maintenant, je connais toute l'histoire de Napoléon. Hein. Et donc, c'était pas un très bon stratège. Bon, la guerre, il a fait pas mal d'erreurs, mais c'était un homme de confiance pour Napoléon. Bon, d'accord, un homme de confiance, d'accord. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le gars, on lui demande d'aller se marier pour Napoléon. Il a la procuration. Et donc, c'est ce qui se passe. Il part en Autriche, et là, pour plusieurs jours, et là, il est reçu comme si c'était Napoléon. Non seulement il est reçu comme si c'était Napoléon, mais il y a des réceptions, et il y a des réceptions officielles, et là, on met tout en branle. Enfin, c'est vraiment la grande réception. Il représente l'empereur. Et il va jusqu'à la cérémonie du mariage, où il va signer sur le papier à la place de Napoléon, pour Napoléon. Mais attendez, mais l'histoire, elle est folle. Et vous voyez où je veux en venir ? Vous voyez où je veux en venir ? Et pour moi, un mot a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et Dieu m'a dit, je t'ai donné procuration. Pourtant, combien de fois on a terminé nos prières en disant, au nom de Jésus ? Façon de terminer une prière. Hein ? C'est devenu presque pas un rite, mais c'est devenu une habitude. Parfois, on a chassé les démons. Nom de Jésus. Non, mais là, c'est différent encore. C'est pour prendre conscience d'une façon très pratique de quelle façon on doit se présenter devant Dieu et devant les hommes. Il nous a donné, et il veut, et ça je le crois, c'était pas simplement pour moi, mais c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Il nous a donné procuration. Nous venons de sa part. Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes ceux qu'il a envoyés. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. Parce que j'ai été envoyé, je vous envoie. De la même façon que j'ai... De la même façon... Écoute-moi. De la même façon qu'il a été envoyé, tu es envoyé. Avec une procuration. Quand tu as une procuration, ça change tout. Moi, au tout début, Je vais vous raconter. Au tout début, ça bouleversait tellement ma vie qu'au tout début, je me suis pris un petit papier et puis j'ai écrit une procuration. Je l'ai mis dans ma poche et quand je me trouvais dans une assemblée ou autre, j'allais toucher mon petit papier, j'ai la procuration. J'avais besoin de quelque chose de palpable. Comprenez ? Parce que ça vient bousculer notre vie, ça. Vous venez avec une autre assurance. Vous venez avec « j'ai la procuration ». Ce n'est pas simplement « je viens au nom de Jésus ». Bien entendu que c'est ça, bien entendu que c'est ça, mais « j'ai la procuration », il m'a donné la procuration. Waouh ! Waouh ! Mes amis, ça change tout. Mais l'histoire, attendez, l'histoire, elle est folle. Vous en convenez avec moi ? L'histoire, elle est c'est fou, cette histoire. Et là, ce jour-là, Dieu voulait me faire comprendre. Ne te présente pas autrement que tu es celui qui a procuration. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Laisse-lui la place. Laisse-lui. On a des problèmes, certains ont des problèmes en disant ouais, j'essaye de plaire à Dieu, mais j'y arrive pas, et puis je retombe toujours dans les mêmes. Puis ça va pas. Et puis... Mais laisse la place, laisse-le vivre en toi. Par tes efforts, tu y as. Mais par nos efforts, on est minable. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Mais attends. Même pour aimer Dieu, on est des minables. Enfin, pas toi, mais moi. On est des minables. On est des minables, attendez. De toute notre force, de toute notre âme. Mais qui peut... Non, mais je dis, je suis un minable. C'est différent. Si l'amour de Dieu demeure en nous. Si c'est l'amour de Dieu qui demeure en nous, il y a quelque chose qui est très facile. C'est l'amour de Dieu, ce n'est pas mon amour. Je suis incapable d'aimer Dieu. Je ne suis pas bon, je suis minable. Enfin, peut-être pas toi, mais moi je suis minable. Wow. J'ai encore 5 minutes. Nous sommes ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Vous voyez ? Il nous parle de la procuration. Tu as la procuration. Et remarquez que la suite, c'est « Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. » Là, oui, il faut d'abord commencer par être réconciliés. Alors là, c'est encore un autre problème. On parlera du pardon, de l'amour, etc. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Nous sommes ambassadeurs. Mais ça, écoutez, alors on le lit, on est habitué à le lire. Ça, on connaît. Hein, nous sommes ambassadeurs. Oui, attends. Je te demande juste de réaliser 2 minutes là, 2 minutes. Va voir ton patron qui t'embauche et tu lui dis, écoutez, je travaille dans votre entreprise, mais j'aimerais que vous sachiez que je suis ambassadeur de Dieu. Alors là, je peux te dire qu'il a préparé le pyjama pour aller directement à l'asile psychiatrique. Attendez, si on réfléchit bien, qui oserait dire à son patron, bah écoutez, cher patron, vous avez affaire à l'ambassadeur de Dieu. C'est un truc fou. Et pourtant, c'est ce qu'il nous a dit. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Être ambassadeur pour Dieu, c'est représenter Dieu avec tout ce que ça veut dire. Dans ma façon de vivre, dans mes comportements, dans mes attitudes, dans les choses que je peux partager, dans cet embrasement qui est dans notre cœur pour parler de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Dieu, donc nous représentons Dieu. Nous représentons, et je vais terminer par ça, mais comprenez, quand nous représentons Dieu, nous représentons, tu représentes Dieu, tu représentes aussi, quand tu sors de ce lieu, tu représentes le corps de Christ. Tu représentes le corps de Christ. Et parce que tu représentes le corps de Christ, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Parce que les gens pourraient dire, ah ben c'est ça les chrétiens. Ah non, ah non. Ah, tu es ambassadeur. On est ambassadeur, tu es ambassadeur, ça veut dire que tu es ambassadeur de l'Église aussi. De l'Église. Moi, je pense que nous devons être très fiers de l'Église dans laquelle nous sommes. Et on ne peut pas se permettre, enfin, je ne vois pas un ambassadeur dire du mal de ce qu'il représente, ni de critique, ni autre chose. Parce que nous sommes le corps de Christ. Mes amis, ça change notre façon de voir. Et même s'il y a des choses qui ont besoin de s'améliorer, mais nous sommes ambassadeurs. Wow. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un verset simplement pour nous faire plaisir. C'est la réalité, et la réalité de Dieu est plus réelle que notre réalité.